Alors bonjour et bienvenue sur Déviation, un podcast sur lequel on finit toujours par dévier du sujet principal. Je suis avec Jonathan. Bonjour.
Salut.
Donc on a décidé d'aborder un sujet et de se questionner par rapport à l'apprentissage, quel rapport on entretient avec le fait d'apprendre, d'engranger des connaissances. Alors du coup, toi, quel est ton rapport à l'apprentissage?
Oula, vaste question. Alors moi, mon rapport à l'apprentissage, pour le coup, ça a été quelque chose qui a été vraiment varié sur une grande échelle temporelle, on va dire, enfin sur mon échelle temporelle, puisque on va dire que toute la période, on va dire primaire, collège, lycée, ça a été quelque chose, c'était pire qu'une corvée, je pense que c'était une vraie souffrance psychologique, dans le sens où c'était quelque chose qu'on m'imposait. Et c'était d'autant plus compliqué que qu'en fait je voyais pas forcément. En fait, j'avais ni le côté utilitariste de me dire je vais apprendre pour avoir une finalité, ni le côté ben, je kiffe en fait apprendre, quoi. Bon, après, il y avait d'autres préoccupations à côté, peut-être qui ont fait que justement j'avais pas encore cette volonté d'apprendre. Alors, arrivé après dans les études supérieures, je vais pas non plus mentir, ça n'a pas été un déclic et waouh, je me suis dit c'est trop cool, j'aime apprendre. Pas du tout, par contre, j'ai trouvé le côté utilitariste que je n'avais pas avant. Dans le sens où je voyais une finalité, je me disais que j'apprends pour quelque chose. Et alors, dans mes études, je vais être franc, j'ai rarement eu la passion d'apprendre, hein, clairement. Ça arrivait quelquefois. Ça m'a permis, entre autres, de découvrir des centres d'intérêt très forts qui ont guidé mes objectifs. Mais dans les faits, dans mes études, la plupart du temps, c'était plus utilitariste qu'autre chose. Maintenant, à côté, j'avais un rapport à l'apprentissage qui a quand même évolué puisque j'ai commencé à prendre goût à apprendre pour mon plaisir. Et ça, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai mis beaucoup de temps avant de m'y mettre. Et encore aujourd'hui, je pense que je suis assez frileux sur certains sujets dans le sens où je vais avoir l'envie d'apprendre sur certains sujets, mais je vais avoir, on va dire, ces petites barrières qui vont dire ouais, t'as la flemme quand même, tu vois. Aujourd'hui, t'as la liberté de faire ce que tu veux, alors pourquoi tu prends du temps? Mais du coup, c'est un rapport qui est assez bizarre parce que c'est un rapport qui est très ambigu. C'est un rapport qui va pas être très manichéen. Et aujourd'hui encore, je me place sur une vaste échelle, on va dire, puisque d'entre un jour, je vais pouvoir avoir une envie totale d'apprendre quelque chose et je peux avoir et le lendemain, je vais être complètement dégoûté du sujet et je vais avoir même une souffrance entre guillemets psychologique au fait de m'imposer d'apprendre. Donc voilà, un rapport pas évident me concernant.
D'accord. Bah, en fait, je dois avouer que j'ai un peu la même impression par rapport à ça de mon côté. Vraiment un rapport très froid avec ce qu'on m'imposait. Mais par contre, la capacité de déployer énormément d'énergie pour apprendre de moi-même des choses sans vraiment avoir la sensation d'apprendre, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est en fait là où je déployais le plus d'énergie, c'était sur des choses qui n'avaient rien à voir avec tout ce qui était scolaire. Vraiment des connaissances théoriques par rapport à quelque chose qui m'avait intrigué dans un film, un jeu vidéo, et du coup j'allais fouiller Wikipédia, et puis je lisais des pages, des pages, des pages, des pages, alors que je suis même pas un grand lecteur à la base, mais plutôt ouais vraiment vraiment énormément d'énergie déployée, alors que quand c'était apprendre des cours ou des choses qui m'étaient imposées, c'était catastrophique, quoi. Je faisais le minimum syndical, je relisais jamais mes cours, mais pour autant, si c'était un cours qui m'intéressait, et ça, je pense qu'on va en parler ensuite, mais quand c'était un cours qui m'intéressait, j'avais plus la pression d'apprendre, et j'avais plus besoin d'apprendre parce que je retenais beaucoup mieux les choses dès la première fois. C'était quelque chose qui me permettait d'emmagasiner des connaissances très facilement. Je pense à des matières assez concrètes comme l'histoire géo. Tu vois forcément l'application directe d'un point de vue plutôt culture générale. Alors que bah, des choses plus abstraites, type mathématiques, c'était beaucoup plus compliqué parce que je voyais pas d'application concrète. Même, enfin, c'était une des illusions pour moi que j'avais eue, mais j'étais un peu fasciné par tout ce qui était science. Parce que génération, c'est pas sorcier, tout ça, enfin, voilà, tu connais. Et en fait, je me suis dirigé donc vers des études scientifiques et je me suis rendu compte que la majorité des trucs qu'on nous demandait, c'était du calcul. Alors que moi, je voulais apprendre des choses comme ce qu'on me montrait dans C'est pas sorcier, des choses très vulgarisées, très simplifiées, qui permettaient d'avoir une vision d'ensemble sur un sujet et de voir surtout la finalité de ce que j'apprenais surtout. Parce que quand tu fais des calculs de masse molaire, je suis désolé, mais enfin, même les gens qui travaillent en labo, je suis pas sûr qu'ils en fassent actuellement, parce qu'ils doivent avoir des ordinateurs qui les font à leur place, quoi. Et ça, c'est un peu triste.
Complètement. Bah après, moi j'ai cette différence par rapport à toi que je pense que j'ai un rapport qui est encore plus distant par rapport à l'éducation, dans le sens où j'ai eu le cas d'avoir des matières qui m'intéressaient vraiment, et des matières auxquelles je m'intéressais même à côté, mais du fait que ce soit cadré dans vraiment un contexte scolaire, ont fait que je me suis presque dégoûté en fait. Alors, c'est assez bizarre de dire ça comme ça, mais par exemple, en termes de. Voilà, d'un point de vue de science, on va dire assez dur. Je sais que y a eu des sujets qui m'ont vraiment passionné. Et c'est des sujets auquel cas. Enfin, en cours, j'étais passionné, mais une fois arrivé chez moi, j'étais incapable de me forcer, enfin, de vraiment d'apprendre, ou même d'aller plus loin, parce qu'il y avait ce contexte scolaire, il y avait ce contexte, on t'impose de le faire, y compris si ça me plaisait en fait. Et alors ça, c'est, je pense, totalement un biais cognitif, mais qui du coup est assez handicapant, parce que parfois, tu vas passer vraiment un très beau. Enfin, tu vas dire, waouh, j'adore ce sujet, mais tu vas pas pouvoir passer outre le côté qu'en fait, t'as tout le cadre autour qui est assez scolaire, quoi. Et du coup, ça a fait que. Enfin, on va dire que même si j'ai poursuivi des études et tout, je suis toujours resté assez passif et assez touriste dans mon cadre études. Mais c'était aussi le moyen pour moi, à côté, d'avoir une super grande liberté pour pouvoir apprendre, en fait. Puisque j'écoutais tellement pas en cours, et j'ai eu beaucoup de chance, clairement, mais ça faisait que même sur les sujets que j'abordais en cours, ben, j'avais une totale liberté pour pouvoir aller plus loin. Donc c'est ultra ambigu, c'est ultra tordu. Mais c'était pour moi le moyen de ne pas me dégoûter de ce que je faisais, en fait, clairement. Bon, bien sûr, il y avait des moments où c'était certaines matières, tu ne peux pas faire abstraction, et là c'était, comme je disais tout à l'heure, un côté utilitariste. Mais quand vraiment je sentais que la matière me plaisait, je faisais tout pour ne pas y coller un cadre scolaire. Et alors on en reparlera, je pense, tout à l'heure quand on essaiera d'aborder un contexte peut-être un peu plus général, mais je trouve ça assez fou de se dire qu'on arrive parfois au stade où le contexte scolaire peut vraiment te dégoûter en fait de la connaissance. Enfin, moi en tout cas, c'est personnellement ce qui m'arrivait, y compris sur des sujets qui te touchent vraiment.
Oui.
Et du coup, voilà, je trouve que c'est assez triste et c'est assez tordu en tout cas.
Non, mais je pense que c'est intéressant ce que tu soulèves et ce que je voulais dire tout à l'heure, mais moi, mon rapport à l'apprentissage, il est vachement lié aussi à la personne qui t'apprend. C'est-à-dire que tu as plus tendance à être en écoute par rapport à des choses que tu apprends toi-même, parce que bah, la personne qui t'apprend, c'est toi en fait. Voilà. Mais comme tu disais, il peut survenir un dégoût. Moi, je sais que j'en ai vécu des dégoûts assez violents, mais c'était en général une personnification. Je personnifiais l'apprentissage par rapport à. Enfin, le sujet que j'apprenais par rapport à la personne qui me l'apprenait. C'est-à-dire que j'ai eu des profs qui étaient odieux, et ben à partir de ce moment-là, j'ai complètement laissé tomber, juste parce que le prof me plaisait pas, tu vois.
Ah, je suis totalement d'accord. Bah, c'est marrant parce que j'ai vraiment beaucoup d'exemples qui me viennent en tête qui illustrent totalement ce que tu dis. Non, mais c'est vrai qu'en fait, quand j'y repense, il y a des matières. Tout à l'heure, tu parlais d'histoire géo. En histoire géo, c'est très simple. J'ai vraiment eu l'alternance et c'est vrai en plus pendant le collège, une année sur deux, j'avais un prof extra et un prof absolument ignoble. Et vraiment, c'était une année sur deux où l'histoire c'était toute ma vie et l'histoire c'était quelque chose d'horrible, clairement. Et c'est fou de se dire, mais je pense que c'est d'autant plus vrai quand tu es assez jeune et assez, comment dire, pas influençable, mais dans le sens où tu, voilà, comme tu disais, tu personnalises vachement la connaissance. Enfin, en tout cas, tu as besoin d'avoir un représentant, et en l'occurrence le prof. Et moi, même ma première année d'études, j'ai un exemple assez concret. C'est que, bon, j'ai jamais été un très très bon élève, j'étais plus à tourner autour de la moyenne, clairement. Mais j'ai eu une prof, en fait, première année de fac, qui est venue me voir, après un devoir qui était, enfin, tu vois, un projet qui m'avait vraiment passionné, donc j'avais vraiment tout donné. Et ce qui arrive rarement, hein, clairement, mais elle est venue me voir et elle m'a dit écoute, Jonathan, clairement, tu as l'âme pour être un vrai scientifique. Alors, ça peut paraître très bête, hein, parce que c'était quelque chose d'anodin, elle a dit ça en partant aller boire son café. Mais quand elle me l'a dit, du coup, après, je me suis dit bah, c'est tout bête, mais du coup, j'ai envie de continuer là-dedans et j'ai envie d'apprendre. Et c'est bête de te dire ça, parce que finalement, c'est que les paroles d'une seule personne. Et si ce jour-là, elle m'avait dit bah, t'es nul à chier, rentre chez toi, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais tout abandonné depuis longtemps, tu vois. Ce qui aurait été complètement bête. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, je pense que il faut que prendre conscience que enfin, les représentants de la connaissance auprès des jeunes et de nous, donc les enseignants, quel que soit le niveau, donc ce soit le lycée, collège ou supérieur, ils ont une véritable influence sur, bah, sur comment on accepte ces connaissances ou pas. J'ai connu des profs de fac qui arrivaient à animer ça comme un one-man show, et j'ai connu des profs de fac qui, même en gueulant et en menaçant, n'arrivaient à rien, tu vois. Et bon, après, bien sûr, bon, là on est déjà en train de dévier, donc je vais revenir dessus, mais j'allais juste dire que justement, c'est tout un art d'enseigner, c'est sûr, mais je pense aussi qu'on faut pas sous-estimer l'importance que ça a pour arriver à transmettre des connaissances et donner l'envie d'apprendre, justement. Donc,
Mais c'est bizarre parce que justement, moi j'ai des souvenirs de profs qui m'ont marqué en bien, en mal. Et en fait, bah c'est souvent, voilà, il y a toujours un entre-deux. Il y a des profs qui t'ont pas marqué, que t'as oublié parce que bah c'était des gens qui n'ont pas réussi à attraper le bon truc chez toi qui faisait que ils arrivaient à t'intéresser. Mais il y a vraiment qu'avec les profs qui m'ont marqué en bien que j'ai réussi vraiment à donner le meilleur et puis apprendre vraiment. Et en fait, ça devenait même plus un travail, quoi, parce que c'était toujours quelque chose qui allait de soi pour moi. Et je pense qu'il y a plusieurs types enfin, il y a plusieurs manières d'aborder les choses, tu vois. Il y a des gens qui ont rapport à l'apprentissage, ils vont avoir besoin de réviser, réviser, réviser pour réussir à engranger ça. À engranger les connaissances, mais j'ai pas l'impression que ce soit. Si tu veux, j'ai l'impression que leur apprentissage passe par la répétition. Et en fait, c'est pas. Alors, je considère, alors c'est mon avis propre, mais j'ai l'impression que ces gens-là, ils ont juste appris des connaissances et à les redistribuer en somme, tu vois, pour un examen ou des choses comme ça. Mais ils ont pas appris. Pour leur culture, en fait, si tu vois ce que je veux dire.
oui, je comprends la distinction. Je pense que la distinction au-delà de ça est vachement importante. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour beaucoup de choses, on a plus tendance, comme tu dis, à assimiler que réellement apprendre. Et ça fait, je pense, même une différence dans la façon dont les gens vont raisonner sur pas mal de sujets. Enfin, ce qu'il faut pas non plus nier, ce qui forge notre discussion, nos idées, nos débats. C'est aussi cette connaissance qu'on acquiert, et je pense que c'est d'autant plus inquiétant de se dire que on peut simplement assimiler et pas forcément apprendre. Donc non, je pense que la distinction est vachement importante. Après, moi, il y a aussi quelque chose que je trouve assez triste et aberrant aujourd'hui. C'est finalement toute la pression enfin, en tout cas, personnellement, j'ai quand même subi un petit peu cette pression, pas non plus énormément, mais toute cette pression qui est liée, on va dire, au fait d'assimiler ses connaissances, comme tu dis. puisque je trouve que sur beaucoup de sujets, enfin sur beaucoup de points, outre le domaine scolaire, tu vois, mais je pense même à la pression sociale, de se dire qu'aujourd'hui, dans certains cas, si t'es pas suffisamment cultivé sur tel ou tel domaine, tu vas avoir quand même une pression qui est sociale, une pression psychologique, et sur pas mal de choses, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, on arrive au stade où on a accès à une connaissance qui est illimitée, clairement, mais ça aussi contraint les gens à devoir, en fait, avoir une connaissance qui est beaucoup plus variée sur beaucoup plus de domaines, puisque dans le cas contraire, tu subis quand même. En tout cas, personnellement, pour illustrer un petit peu, outre le domaine scolaire où tu peux avoir la pression de tes parents, la pression par rapport à tes amis. Je vois que dans certains sujets de discussion et tout, tu peux aussi avoir une pression parce que personne ne peut être en affinité avec tous les sujets. Et si aujourd'hui tu parles avec quelqu'un de tel ou tel domaine et qu'il a fond dedans, tu vas te sentir un petit peu délaissé. Je pense à des domaines, on va dire, un peu ultra généralisés. Donc voilà, après bon, c'est peut-être que personnel, c'est peut-être qu'une impression, hein, mais.
Je sais pas, moi j'ai l'impression que justement on a accès du coup, comme tu le disais, à beaucoup plus de choses avec Internet et tout, la possibilité de se cultiver. Et c'est vrai que bah en fait on peut avoir une culture et apprendre des choses qui sont vachement différentes, et en fait tu peux rencontrer des gens qui ont des connaissances beaucoup plus variées que ce qu'on pouvait avoir quand on était entre guillemets au collège. On avait une connaissance qui était uniformisée, quelque chose qui était beaucoup plus on avait tous le même tronc commun entre guillemets.
Une arborescence. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est aujourd'hui, je pense, la chance qu'on a. C'est à la fois l'accessibilité à la connaissance, c'est clair et net. Et c'est aussi le fait que ça permette à certaines personnes d'exprimer leur connaissance de manière beaucoup plus libre. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, tu vois, toi, tu vois vraiment le côté positif et tu as tout à fait raison. Et moi, juste avant, j'évoquais peut-être le côté négatif dans le sens où. Je me voyais. En fait, personnellement, je m'impose ce côté-là où il faut que je sois un peu calé sur tout dans certains cas, parce que sinon, je vais me sentir. J'ai senti une certaine pression. Mais dans les faits, tu as tout à fait raison de soulever le fait qu'aujourd'hui, ça permet au contraire d'avoir plein d'avis différents qui sont d'autant plus passionnés et d'autant plus sincères, en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment super cool. Alors après, il y a aussi justement un autre point que je voulais soulever par rapport à toi et enfin, de mon point de vue personnel, peut-être avant d'aborder quelque chose d'un point de vue un peu plus général, ce qu'on commence un petit peu à faire avec Internet, mais je voulais savoir en fait quel était ton rapport aussi à la forme de l'apprentissage en fait, parce que là on a évoqué un cadre qui était finalement très scolaire, on a un petit peu évoqué Internet, mais des formes d'apprentissage, il en existe peut-être une infinité, je ne sais pas, mais en tout cas beaucoup. Personnellement, par exemple, je sais que ma manière d'apprendre la plus concrète et celle qui m'a apporté le plus, c'est à travers les gens, en fait, à travers les rencontres, à travers les dialogues. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais avant. C'est vraiment s'enrichir auprès des gens qui t'apportent des choses que tu n'avais pas forcément avant. Jamais été forcément le genre de personne à lire 40 000 articles, à écouter énormément de conférences, des choses comme ça. Par contre, quand je rencontre des gens, là, je suis toujours passionné. Et c'est comme ça que j'apprends en fait. Et je trouve que c'est intéressant de soulever cette question, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à quand même vachement cadrer la manière d'apprendre, mais finalement, il y en a quand même beaucoup, je trouve, et il y a une très grande diversité. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais. Non, c'est clair, c'est vraiment quelque chose. Alors même si j'ai un peu la même manière d'apprendre grâce aux autres, grâce aux nouvelles rencontres, essayer de me nourrir de tout ce que les gens peuvent apporter pour moi d'un point de vue culturel, j'ai aussi un truc assez solitaire de l'apprentissage, tu vois, un petit peu une traversée du désert, entre guillemets, que je fais vraiment seul, où ça va être plutôt vraiment une recherche, mais ça c'est une démarche que j'ai pour plein d'autres choses. C'est vraiment une démarche de recherche quand je cherche de la musique ou des choses comme ça, bah, je vais me prendre des moments où je vais écouter des trucs tout seul et je vais fouiller, je vais fouiller, je vais fouiller, je vais fouiller, un peu à l'infini, jusqu'à en fait être gavé et en être fatigué ou tomber de fatigue en fait, vraiment jusqu'à plus en pouvoir. Et c'est une démarche un peu boulimique, un truc un peu entre guillemets honteux. Que je fais pas, que je fais vraiment que tout seul, où j'ai ce petit plaisir personnel qui est que des fois, et c'est vrai que c'est rare, mais il y a des moments où je commence à me lancer dans une séance entre guillemets de recherche. Ça va me faire un espèce de chemin en zigzag, et en fait qui s'arrête jamais parce qu'il y a toujours quelque chose qui va te renvoyer, tu vois, le phénomène page Wikipédia. Où tu vas lire une page Wikipédia qui t'intéresse, et puis il y a un mot-clé qui t'intéresse, donc tu vas cliquer dessus, tu vas commencer à lire la page du mot-clé, puis dans cette page de mot-clé, il va y avoir un autre mot-clé qui va te renvoyer sur une autre page, et ainsi de suite, à l'infini. Et c'est un peu cette démarche que j'ai, et en fait j'apprends sans vraiment me rendre compte que je suis en train d'apprendre. Et en fait c'est après quand je vais discuter avec des gens, on va me poser des questions, et je vais être en mode genre, ah oui, mais j'ai lu ça sur une page Wikipédia. L'autre fois et tout, et puis bah comment t'es tombé là-dessus? Bah je sais pas, au départ chercher tel truc, et puis au final j'ai découlé sur 15 autres pages, et notamment un truc qui parlait de ce sujet en particulier. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'arrive pas forcément, enfin c'est pas quelque chose que je fais à chaque fois je suis seul ou quoi que ce soit, c'est vraiment des moments où j'arrive dans une espèce d'état d'esprit un peu de transe. Où en fait je vais me plonger dans un truc à 100% et je vais pas réussir à en décoller. Et des fois j'ai des sujets comme ça ou des trucs qui me passionnent où je vais me lancer là-dessus à 100% et je vais tout bouffer d'un coup. Histoire de connaître le plus de choses sur un sujet ou un autre. Notamment bah, même pour la musique, tu vois, genre un artiste. Tu essaies d'en savoir un peu plus sur l'artiste, tu vas faire des recherches, tu vas chercher dans quel groupe il était, quels sont ses autres projets, ses différents pseudonymes sous lesquels tu commences à écouter tout ce que le mec a fait. Et puis des fois ça s'amplifie et t'en finis pas quoi. Et du coup tu peux passer des heures et des heures hein, comme ça.
D'accord. Mais je trouve que c'est assez intéressant, et puis ça va me permettre, enfin, je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter sur ta vision personnelle, mais je pense que c'est un bon moyen d'enchaîner sur une autre question qui peut être intéressante, c'est de savoir aujourd'hui quelle serait, en tout cas pour toi, et peut-être de manière assez générale, une bonne manière d'apprendre. En tout cas, si aujourd'hui on doit essayer d'améliorer, on va dire, la manière dont on acquiert les connaissances, parce que finalement, ce que tu dis là et ce qu'on a un petit peu discuté avant, c'est que un facteur clé, c'est, on va dire, le côté passionnel un petit peu du sujet, quoi. Mais ce côté passionnel, on peut le retrouver donc soit parce que le sujet nous touche, comme tu viens de le dire très clairement, ou alors, comme on l'a dit un petit peu avant, ça peut nous toucher par l'interlocuteur, par l'enseignant, ou par comme une personne avec qui on parle. Mais finalement, dans les deux cas, c'est des choses qui sont quand même ultra compliquées à. Enfin, c'est pas des choses que tu peux maîtriser, c'est pas des choses que tu peux mettre en place comme ça. Tu peux pas choisir quelqu'un qui. Tu peux pas dire je vais mettre un bon prof, tu peux pas dire ce sujet va intéresser tous les élèves. Et donc la question, c'est de savoir si aujourd'hui il y a autant de gens qui sont comme nous, qui ont quand même un peu subi, on va dire, la scolarité, comment on pourrait. De manière totalement, je jette une bouteille à la mer, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, mais c'est tenter d'avoir une réflexion là-dessus, quoi.
Bah, j'avoue que je pense que c'est impossible d'une certaine manière parce que chaque personne a un rapport à l'apprentissage différent. Il y a des gens, ils ont juste besoin d'apprendre par cœur un truc et pour pouvoir le recracher et pas forcément avoir un côté passionnel. Il y a des gens, enfin on a tous connu dans nos études des gens qui sont des bourreaux de travail et qui vont réécrire 15 fois leur cours. Et c'est comme ça, et puis ils vont se taper une bonne note et tout, mais en fait, de certaines manières, enfin, moi je pense pas que ce soit une bonne méthode, mais après, il n'y a pas de bonne méthode, il y a juste différentes personnalités et différents tempéraments qui font que tu apprécies plus ou moins telle ou telle méthode. C'est vrai que moi je suis plutôt partisan du apprends que ce que tu as envie d'apprendre et te force pas à apprendre parce que ça va juste te dégoûter de plein de choses qui pourraient t'intéresser. Mais je suis pas sûr que ce soit bien non plus parce que si tu fais ça, il y a des gens, ils vont pas, en fait, ils vont pas prendre l'initiative d'apprendre d'eux-mêmes. Et on voit bien avec plein de gens qui attendent juste, qui sont entre guillemets passifs face à l'apprentissage, ils vont être en attente de quelque chose. On a toujours dans nos cours ou des choses comme ça, des gens qu'on rencontre qui sont un peu en panique quand ils n'ont pas le cours, quand il leur manque 4 lignes du cours, ils sont complètement en panique parce que ils se disent qu'ils ont raté quelque chose d'essentiel. Alors que si tu as compris en globalité ce que le cours voulait dire, en général ça va, tu vois, il n'y a pas trop de soucis. Mais je sais pas, je pense que en fait, enfin, je pense que si tu veux, l'apprentissage tel qu'on l'a aujourd'hui, alors je vais peut-être faire l'avocat du diable, mais je pense qu'il a été fait pour être adapté, entre guillemets, au plus grand nombre, pour que la majorité des gens soient pas mis de côté, parce que tu peux pas faire non plus quelque chose d'individualisé. C'est beaucoup trop compliqué à mettre en place, c'est beaucoup trop cher. Mais c'est vrai que en fait, bah, y a plein de gens, et encore nous, ça va, on n'est pas trop. On n'est pas. Enfin, on n'a pas eu trop de problèmes. On est passé entre guillemets entre les mailles du filet parce que on avait quand même des capacités, on va dire, qui n'étaient pas trop dégueu. Et puis on a réussi sans, enfin, personnellement, sans branler grand-chose. Ben, j'ai réussi à taper le 10 et puis à passer à peu près à chaque fois sans forcer, quoi. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont comme nous, mais qui vont pas avoir les facilités, entre guillemets. Et qui vont peut-être pas, qui vont être un petit peu qui vont être un petit peu sur le carreau par rapport à cette manière d'apprendre tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
Bah complètement, complètement. En fait, j'étais en train de me demander si. Parce que tu disais aujourd'hui, je suis à peu près d'accord avec toi que le système est adapté au plus grand nombre. Maintenant, aujourd'hui, on a accès à des outils, notamment Internet, qui permettraient, je pense, d'avoir, sans forcément trop dépenser, de donner ne serait-ce que l'envie d'apprendre à la petite minorité qui est à côté, tu vois. C'est-à-dire qu'on a quand même le moyen d'avoir des podcasts par exemple, des vidéos, même des outils interactifs qui, enfin j'en sais rien, il y a une myriade de possibilités qui permettraient, je pense, de redonner goût à la connaissance, même si c'est une connaissance beaucoup plus spécifique. Hein. Mais je trouve que je pense pas qu'on puisse concrètement cracher sur le système actuel et dire que c'est le pire système possible, parce que c'est pas vrai. Je pense que, comme tu l'as très bien souligné, c'est le système qui s'adapte au plus grand nombre, c'est le système qui essaye de faire le mieux
Après,
en faisant le moins de compromis. Oui.
clairement, il est en retard. Il est en retard par rapport à ce qui se fait aujourd'hui.
Ah oui, non, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi, il est totalement en retard. Après, le truc là où je voulais en venir, c'est que je pense qu'il ne faut pas non plus, enfin comme tu l'as très bien souligné, là il est en retard, et il ne faut pas non plus justement rester bloqué dans un temps qui n'est plus le nôtre, tu vois. Alors, bon, on va encore une fois peut-être un peu dévier du sujet, mais ça me fait notamment penser à quelque chose dont j'avais envie de te parler par rapport à ce sujet. C'est aussi le fait que j'ai personnellement cette discussion avec pas mal de gens plus âgés, c'est que le rapport à notre connaissance à la connaissance par rapport aux générations, tu vois. C'est que j'ai eu cette remarque où on me disait, aujourd'hui, les jeunes ne savent plus apprendre, tu vois, ne savent plus bosser, etc., etc., etc. Et j'ai aussi rencontré des gens qui étaient beaucoup plus âgés, extrêmement cultivés, et qui ont eu on va dire, cette vision très pessimiste, en fait, de notre génération, en tout cas des jeunes générations, qui étaient une génération très peu cultivée. Et souvent, ils appuyaient ça en fait par des études qui montraient bah, qu'on apprenait moins, des études qui montraient, et je pense que c'est vrai, qu'on a un vocabulaire qui est beaucoup plus limité qu'avant. Mais après, si tu veux, je me demande si aujourd'hui tout ça, est-ce que c'est vraiment négatif? Parce que finalement, tout a toujours évolué, y compris les langues, et notamment, bon là, pour venir à l'apprentissage, y compris l'apprentissage. Et donc, je pense qu'on va reparler d'Internet, tout ça, mais l'idée, c'est de savoir si est-ce que c'est vraiment quelque chose de négatif, parce que peut-être qu'on a une culture qui est plus limitée en termes d'apprentissage. Par contre, on sait y accéder beaucoup plus rapidement que les générations d'avant, et on a une manière de penser qui est complètement différente. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais
Je pense qu'il y a un effet calculatrice entre guillemets, enfin l'effet calculatrice, je l'appelle comme ça, mais dans le sens où bah, ton père il dit ouais, nous à notre époque on calculait les cosinus à la main. Il y avait des tables, des feuilles avec des tables de cosinus, sinus, tangentes et tout, et puis on les avait, et puis on faisait nos calculs par rapport à ça. Bah ouais, ok, sauf que maintenant on a des calculettes, et est-ce que c'est bien important d'apprendre comment calculer un cosinus? Parce que ça servira à peu près à personne, et même les gens qui peuvent se servir des calculs de cosinus, bah en fait, c'est pas eux qui vont les calculer. Comme je disais, ça va être des machines ou des calculatrices qui font bien mieux et bien plus précisément. Alors certes, à une époque, c'était important, mais aussi, le savoir, il évolue. Et certes, c'est des choses qu'il faut pas forcément oublier. Faut savoir comment ça fonctionne, mais... Enfin, ça peut être intéressant de savoir comment ça fonctionne, mais c'est pas indispensable de le connaître, quoi. Ça peut être bien. Je veux dire... Alors je vais prendre un exemple qui n'est pas forcément le meilleur, parce que c'est tout, ça peut toujours être utile, mais je veux dire, à une époque, il y avait beaucoup de monde qui savait ferrer un cheval. Maintenant, c'est plus indispensable de savoir ferrer un cheval pour travailler dans un champ, si tu veux. Même si à une époque, c'était quelque chose d'indispensable, et puis, ben, en fait, les choses évoluent et c'est vrai que, ben, en fait, on apprend de nouvelles choses et puis peut-être des choses que les générations précédentes ne considèrent pas comme du savoir, en fait, de la connaissance, mais qui, en fait, nous servira. Je pense à, tu vois, genre, basiquement à l'utilisation d'un téléphone portable ou d'un ordinateur. Bah oui, en fait, c'est des choses qu'on apprend sans les apprendre, parce que c'est un outil qu'on utilise tous les jours, mais pour autant, on sait très bien l'utiliser, pour la plupart. Alors, bon, il y a toujours des contre-exemples, mais notre génération, on est quand même très à l'aise sur ce genre d'appareil, mais bah, les gens des générations précédentes, certes, ils calculaient les cosinus à la main, par contre, quand il s'agit d'envoyer une pièce jointe par téléphone, là, il n'y a plus personne, hein.
Non, c'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi. Après, le truc aussi, c'est de se dire, en fait, est-ce que la perte. Parce que finalement, au-delà de la perte de connaissances sur certains sujets, toi, t'évoquais les fers à cheval, et c'est vrai, mais il y a aussi une perte de connaissances sur des choses un peu plus.
Pratique.
Je dirais. Bah, peut-être un peu moins cliché dans le sens où, par exemple, je pense à de la culture un peu brute de décoffrage, notamment, tu sais, tous les vieux auteurs, des choses que j'ai quasiment pas lues, et des choses qu'on nous dégoûte, encore une fois, à la scolarité, avec la philo, le français, tout ça. Mais ce genre de choses où, finalement, souvent on va te sortir, oui, moi, à ton époque, je lisais du Rousseau, blablabla, et blablabla. Et c'est vrai que, alors, c'est pas pour dire que ce soit bien ou que ça mal, mais. Je trouve que c'est intéressant de se poser la question comment même notre rapport par rapport à des domaines comme la philosophie, tout ça, finalement, ça a vachement évolué d'une génération à une autre. Puisqu'aujourd'hui, finalement, on va plus se rapprocher de philosophes contemporains qui vont tweeter, qui vont. Mais c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, moi le premier, mais qui vont faire des podcasts, qui vont intervenir sur France Inter, France Culture, j'en sais rien. Mais du coup, on a une évolution qui est totale par rapport à l'apprentissage. Et je trouve ça assez dingue quand on prend un peu de recul sur tout ça, parce que ça allait ultra vite. Moi, j'ai l'exemple d'amis qui ont un peu plus de la trentaine et qui ont grandi encore avec cette optique un petit peu d'apprendre avec beaucoup de livres et après, peut-être le contexte aussi qu'ils faisaient, contexte familial, etc. Mais alors que moi, personnellement, aujourd'hui, Voilà, quand je veux écouter de la... quand je veux m'enrichir en philosophie, je vais écouter un podcast ou je vais regarder une vidéo assez courte. Et ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal, c'est juste que je trouve le rapport, la différence assez cool à relever, quoi.
Bah, l'éducation, elle aussi, elle a changé. En fait, j'en discutais récemment avec d'anciennes profs à moi de l'IUT que j'ai recroisé. Et en fait, j'aurais parlé d'une prof que j'avais eue qui était là dans l'IUT, donc une collègue à elle, qui faisait des cours de droit. Et en fait, le truc, c'est que cette prof, c'était le genre de prof qui te retient pendant 2 heures en amphi et qui te débite un texte ininterrompu dans un langage de droit, donc un truc imbitable, un truc indigeste au possible, pendant 2 heures. Et en fait, si tu veux, moi j'avais tendance à m'endormir de fatigue dans ces cours, à force d'écrire. Tu faisais à peu près 2-3 copies doubles en un cours magistral. Et en fait, j'en ai discuté avec mes anciennes profs, et puis elles me disaient, ouais, bon, c'est quelqu'un qui avait tendance à considérer que le cours magistral était la meilleure manière de transmettre le savoir, tu vois. Et peut-être, je pense qu'à une époque, c'était le cas, tu vois. Mais notre génération, alors... Là, je vais faire une grosse, grosse, grosse déviation. À cause notamment du marketing et compagnie, on nous a habitués à être attentifs en permanence, à avoir des micro-attentions. Et puis, enfin, tu vois, il y a des études qui montrent qu'on a tendance à pas réussir à rester concentré très longtemps, tu vois. Genre, on va. Quand on est en phase d'apprentissage et tout, on va tendance à regarder notre portable parce qu'on nous a habitués à avoir des micro-stimulations de partout, en permanence. Et forcément, tu peux pas rester 2 heures en cours, assis le cul sur un banc, à écrire et à boire le savoir de quelqu'un. C'est plus possible, en fait. Je pense que c'est plus possible. Alors, il y a toujours un contre-exemple. Il y aura toujours quelqu'un qui va être là, genre, ouais, non, ça marche bien, tu vois. Mais je pense que ça tend à disparaître. C'est pas pour rien qu'on voit que la télé est désertée par les jeunes et que les formats qui marchent sur Internet, c'est des trucs ultra speed qui sont tout le temps en fait à créer bah, de la micro-attention parce que c'est le seul truc qui arrive à captiver les gens, enfin les jeunes générations. C'est des choses qui vont ultra vite, qui se consomment rapidement. Et c'est là où c'est le problème, c'est que c'est consommer des choses qui vont vraiment agripper très rapidement, comme de la publicité en fait, qui vont être très aguicheurs en fait, qui ont besoin d'être très très. Et je pense que la société évoluant dans ce sens, et je pense pas que ce soit un bien, même si je sais pas si on peut y faire grand-chose. Eh ben, faut que l'éducation arrive à se tourner vers des nouvelles méthodes qui sont un peu plus efficaces, je pense, parce que tu vois, genre moi, enfin, alors, on a quelques années de différence, mais moi, à mon époque, il y avait jadis,
Fut un
c'était
temps,
temps,
oui.
au collège, on n'avait pas le droit d'avoir de téléphone. Et en fait, ni de lecteur MP3, tu vois. On n'avait pas le droit d'utiliser notre lecteur MP3 dans la cour du collège. Et je pense que maintenant, tous les gamins, dans la cour de récré, ils ont leur téléphone, tu vois. Et moi, je suis arrivé un petit peu dans la période de transition. Je sais pas, toi, comment c'était au collège, à ce niveau-là.
Alors juste, je vais juste rebondir sur ce que tu disais avant et je te réponds. Alors juste ce que tu disais avant, je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça a ramené à ce que tu dis, à ce qu'on disait encore avant. Donc ça va être compliqué à suivre, mais dans l'idée de l'évolution de l'éducation, si tu veux, je trouve que ça soulève notamment le point de savoir si aujourd'hui les formats courts, et notamment je pense aux formats courts de vulgarisation sur Internet, ne seraient pas finalement une bonne porte. D'entrée, ou en tout cas une bonne évolution de la forme d'apprentissage, puisque comme tu dis, Aujourd'hui, le fait est qu'on voit ça de manière positive ou négative, le changement, il est là. Et on le subit ou on le vit de toute façon. Donc, il faut s'adapter en fonction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des formats assez courts, mais qui transmettent quand même des connaissances, ça existe. Des formats un peu plus longs qui arrivent quand même à m'intéresser, parce que, comme tu dis, c'est percutant, ça donne envie de regarder tout simplement. Il y a des explosions, il y a de la musique forte, il y a des petits passages de cinématiques. Ben, non, mais je vais donner un exemple tout bête, mais même sur une vidéo de 20 minutes de vulgarisation en histoire, si dans les 20 minutes, au milieu, t'as pendant 3 minutes, on te montre un combat reproduit entre des Vikings et je sais pas qui, des Anglo-Saxons, enfin tout de suite, tu vas être intéressé, tu vois, parce que c'est brut, enfin, il y a de l'action, tu vois ce que je veux dire. Et ça marche aussi pour pas mal de choses, même en biologie, tu vois, il y a beaucoup de vulgarisateurs qui marchent très bien sur YouTube, parce qu'ils arrivent à avoir un format où tu as des zooms, tu as des effets spéciaux, tu as des flous, enfin, tu vois, tu as toutes ces mécaniques-là qui sont propres à YouTube, qui font que ça marche. Mais en soi, les connaissances sont quand même transmises, donc.
Et juste petite parenthèse, mais même pas qu'à YouTube, on le voit aussi dans le cinéma. Tu regardes un film d'il y a 20 ans, tu t'emmerdes, tu vois, parce que c'est pas assez dynamique. Je referme la parenthèse.
Ah, complètement. Non, mais c'est bien, il faut dévier un petit peu, sinon. Sinon, le podcast perd tout son nom. Mais en tout cas, non, ce que je voulais dire, et puis ensuite, je vais quand même répondre à ta question par rapport au portable, parce que sinon, je pense que je vais jamais y répondre. Mais en tout cas, je trouve que pour conclure sur l'évolution de l'éducation, je trouve que ce serait une bonne porte d'entrée de se tourner vers ce côté vulgarisation par Internet. En tout cas, et tenter de comprendre les mécanismes qui marchent. Alors ensuite, du coup, pour répondre à ta question, finalement, au niveau des téléphones, moi, en fait, si tu veux, je suis arrivé dans la génération où on a vraiment eu la transition entre, on va dire, ta génération et la génération suivante, où c'était peut-être encore plus démocratisé. En fait, c'est arrivé assez vite, puisque moi, j'ai souvenir, en fait, que mes premières années collège, c'était un petit peu comme toi, vraiment. Il y avait ce côté-là où très peu de gens avaient de téléphone. C'était assez pas mal vu, je dirais, mais bon, voilà, il n'y avait pas forcément tout le monde qui était à fond là-dessus. Par contre, arrivé au milieu du collège, là, il y a eu un boom assez rapide en 1 ou 2 ans, où vraiment, si tu n'avais pas un téléphone, bon, déjà, tu avais la pression sociale, mais au-delà de ça, tu étais complètement largué, en fait, puisque c'est là où aussi commençaient, on va dire, toutes les relations sociales par le téléphone, par tout ce qui était même réseaux sociaux, on va dire. Et c'est vrai que ça allait assez vite. Et alors aujourd'hui, je vais pas faire le vieux boomer à dire ouais, ils ont tous un téléphone dès 5 ans. Mais en tout cas, moi personnellement, je sais que je l'ai eu quand même assez jeune. Et peut-être que ouais, ça a quand même, enfin, ça a peut-être un effet insoupçonné, en tout cas tu parlais notamment de la concentration et tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu peux te demander, en fait, si déjà dès 10, 11, 12 ans, t'as un téléphone entre les mains qui finalement, où il y a des jeux dessus, il y a des messages, il y a des notifications, etc., etc. Finalement, quelle est ta capacité d'attention? Je vais juste, parce que là j'y pense, mais je repense, il n'y a pas longtemps, il y a Cyrus North, je sais pas si tu connais, qui est un YouTuber, qui avait fait une expérience de couper, en fait, tous les réseaux sociaux pendant un mois. Et il disait justement, en fait, que ça avait permis, entre autres, de retrouver l'attention sur pas mal de choses, puisque en fait maintenant, le fait est que même quand enfin, on a cette tendance, en fait, quand on inconsciemment à retourner vers notre téléphone, à toujours vouloir cliquer, etc., etc. Bon, là je dévie complètement le sujet d'après, mais c'est pour revenir au côté attention. Et donc je pense tout à fait, ouais, que ça a un impact.
Mais tu vois, en fait, ce que je remarque, c'est que bah, d'un point de vue éducation, ils essaient de s'adapter, mais mal, je pense. Parce que si tu veux, de ce que je remarque, c'est qu'ils ont essayé de, dans les écoles primaires et tout, dans les collèges, voilà, ils ont changé tout le matériel, ils ont des tablettes et tout, mais en fait, le problème, c'est que les contenus. J'ai pas l'impression qu'ils aient changé. Alors après, je me plante peut-être parce que je suis pas non plus super au courant, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils font juste ce qu'ils faisaient avant, mais sur tablette. Et c'est pas ça le problème, tu vois. Genre, ils sont trompés de problème. Ils pensaient que la tablette allait résoudre le problème, entre guillemets, d'attention. Alors peut-être que ça le résout un petit peu parce qu'il y a la familiarité de l'appareil numérique qui fait que, voilà. Mais je pense que le problème, c'est vraiment un problème de contenu aussi du cours qui était, bah voilà, le professeur au tableau qui écrit les choses avec sa craie, ça a peut-être fait son temps, quoi. Et alors
Complètement.
après, peut-être que.
Bah, après, moi, je vois personnellement deux gros problèmes. C'est comme tu dis, le premier problème, c'est que l'évolution du contenu n'a pas suivi, clairement. Et aujourd'hui, bah, on voit aussi les limites en fait des programmes imposés. Parce que forcément, au-delà du fait que ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est aussi le fait qu'il faut que ce soit des. Enfin, les programmes sont plus forcément en accord avec leur temps, comme tu dis, en termes de contenu. La deuxième problème que je vois qui est assez important, et c'est un peu ce qu'on a dit en tout début de ce podcast, c'est que l'une des grosses variables, c'est quand même aussi l'interlocuteur, et qu'on ne peut pas finalement demander à tout le monde, en tout cas à tous les enseignants, d'être talentueux sur une vidéo, ou même en termes de montage, tout ce que tu veux. Parce que finalement, tout ça reste quand même quelque chose qui. Enfin, je veux dire, des gens qui vulgarisent, il y en a beaucoup, des gens qui vulgarisent bien, il y en a très peu, tu vois. Et donc encore une fois, c'est vrai que c'est facile de citer un ou deux youtubeurs qui s'en sortent très bien sur des sujets, mais dans les faits, ça reste une exception.
Après, tu vois, genre, je pense que c'est pas une question non plus de. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Tu vois, je pense que il y a aussi des profs, même en faisant un cours magistral, ils vont réussir à te captiver et rendre ça intéressant, parce que bah, y a de la. Ils sont pédagogues, ils ont un talent, mais en général, ces profs-là, ils nous marquent beaucoup, mais ils sont rares. J'essaie de me souvenir, mais voilà, dans ma scolarité, tu vois, j'en ai peut-être eu un tous les 2 ans. À peu près, vraiment quelqu'un qui m'a
Moi, je suis d'accord
captivé.
avec toi.
Et ces gens-là, tu vois, ils n'avaient pas besoin de passer par des trucs, tu vois, genre j'allais dire des fraudes, mais tu vois, genre des effets de se faire passer pour un truc plus dynamique qu'ils ne le sont vraiment, tu vois. Ils n'avaient pas besoin de passer par de la vidéo YouTube ou des trucs hyper rythmés et tout ça. Parce que eux, déjà, arrivaient à captiver. Et je sais pas, en fait. Au final, tu vois, genre en discutant, je sais pas si je suis d'accord avec ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le sens où. Je pense que je reviens un peu sur ma décision, parce que je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont le talent et la fibre pour transmettre des choses. Et je suis pas sûr que ce soit. En fait, tu vois, il pourrait justement s'appuyer sur des trucs plus dynamiques et des ressorts un peu plus accrocheurs. Mais est-ce que ce serait pas justement tirer tout vers le bas aussi? Est-ce que c'est pas bien que bah, y ait des gens talentueux qui puissent faire des trucs à l'ancienne et malgré tout captiver les gamins, tu vois? Je sais pas.
Donc c'est donc le podcast marche
C'est
arrière.
ça.
Non. Non, non, en
Voilà.
vrai, je suis d'accord avec toi et pas d'accord. Enfin, je suis d'accord qu'aujourd'hui, clairement, ceux qui transmettent le mieux, c'est ceux qui, comme tu dis, ont ce petit truc en plus, en fait, qui fait que. Je sais même pas si c'est du charisme ou quoi, mais qui fait que bah, t'es juste là en train d'écouter. Maintenant, comme tu l'as très bien souligné, c'est des exceptions, c'est des gens qui sont quand même très rares. Et aujourd'hui, si on est juste pragmatique et réaliste, on se dit que voilà, on peut pas juste compter sur un prof tous les 2 ans,
Oui.
tu vois. Si, donc on fait la solution qui correspond au plus. Après, je suis d'accord avec toi que ce serait probablement une perte parce que je pense sincèrement que certaines personnes, comme tu l'as très bien souligné, sont juste dingues dans un amphithéâtre devant 300 personnes. Mais par contre, si tu commences à les filmer et à. Voilà, ça va être complètement nul, tu vois, enfin, parce que c'est des gens qui sont pas faits pour ça, et c'est normal, parce que on peut pas exiger de tout le monde d'être adapté à ces nouveaux formats. Maintenant, la question, c'est de savoir, enfin, voilà, c'est l'évolution aussi, c'est triste à dire, je suis d'accord avec toi, parce que nous, on a connu encore, enfin, on connaît encore justement ce genre de personnes, mais dans les faits, si aujourd'hui on changeait tout, dans 10-20 ans, on aurait probablement des gens qui s'en sortent ultra bien par vidéo, qui sont charismatique, des personnes peut-être différentes. Certes, on aurait eu des pertes, mais on aurait aussi gagné, tu vois. Et la question, je me dis, c'est de savoir qu'est-ce qui est le plus adapté aujourd'hui pour tous, parce que je pense que on peut pas non plus vivre dans l'idée du passé, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, et que je trouvais pertinent, c'est que finalement, Le gros problème de l'apprentissage aujourd'hui, c'est que ça n'évo... enfin, ça reste dans le passé un petit peu, tu vois. C'est que ce n'est pas... c'est un retard concrètement. Et alors c'est un retard, comme tu dis, pour... enfin, voilà, y a des bons côtés, clairement, c'est pas non plus de cracher uniquement sur et dire que tout va mal, parce que comme tu l'as dit, je pense que ces enseignants-là, qui sont rares mais qui existent, ils sont juste géniaux, et c'est une grande chance qu'on a eu de les côtoyer. Maintenant, voilà, je pense pas que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Après, c'est compliqué de porter un jugement. Je tourne un peu en rond, mais c'est parce que je trouve que c'est compliqué de dire que c'est bien ou c'est mal aujourd'hui, parce que déjà, nous, on est en plein dans le changement. On est peut-être, la génération qui va arriver sont peut-être encore plus dans le changement. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est intéressant à voir, parce que je pense qu'on est en tournant dans la forme d'apprentissage qui est quand même assez importante.
Non, je suis d'accord. C'est vrai que on peut pas prévoir en fait ce qui se passera d'ici quelques années. Et c'est vrai que c'est un peu. Je sais pas dans quel vers quoi on va tourner. En fait, le truc dont j'ai un peu peur, c'est qu'on se retrouve face à des politiques d'éducation ultra réac. Tu vois, parce que justement, c'est un petit peu les problématiques qu'on a actuellement. C'est genre, il y a des gens qui montent au front en disant, oh, bah, les gamins, ils savent plus compter, ils savent plus lire, tu vois. Bah ouais, mais en fait, les problématiques, elles sont plus là aujourd'hui, quoi. C'est plus les problématiques de notre temps. Alors oui, c'est bien de savoir compter et tout, mais en fait, le problème, c'est que savoir compter et lire, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de. On se retrouve avec des gamins qui ont des lacunes sur, on va dire, leur intelligence émotionnelle, entre guillemets, avant de savoir compter et lire, et qu'en fait, il faut combler aussi ces lacunes avant d'arriver à une soi-disant excellence dans les, on va dire, les connaissances fondamentales, mais les connaissances fondamentales. Là, pour l'instant, je pense qu'un gamin qui sait pas lire, pas écrire, mais qui sait parfaitement utiliser un équipement informatique, il s'en sortira beaucoup mieux dans les années à venir qu'un gamin qui saura très bien compter, très bien lire, mais qui saura pas se débrouiller avec qui saura pas se débrouiller avec un téléphone ou un ordinateur. Alors je dis pas que c'est pas important de savoir lire et compter, mais il faut socialement aussi qu'on arrive à accepter que ces problématiques changent.
Mais je trouve ça intéressant ce que tu soulèves, peut-être pour un autre point. C'est une question que je trouve assez pertinente, c'est de savoir si aujourd'hui c'est encore légitime ou non de se dire qu'on doit continuer à apprendre finalement sur tout, ou en tout cas sur tout ce qu'on nous a enseigné jusqu'à ici, tu vois. Je sais qu'on a quand même en France en tout cas une grande diversité de matières. Donc toi tu parlais de lire et compter, mais on peut aller plus loin, parce que même dans le collège, dans le lycée, que ce soit même la philo, ouais, que pourtant j'apprécie beaucoup la philo, et c'est pas du tout pour dénigrer, mais bah, la philo, mais même comme tu parlais tout à l'heure, les sciences dures pour certaines personnes, ça peut être aussi... enfin, il y a beaucoup de choses finalement. Est-ce que finalement, encore aujourd'hui, c'est pertinent d'exiger que bah, qu'on impose cet apprentissage à tout le monde? Puisque même en l'imposant, finalement, on n'est même pas sûr que ce soit qu'il y ait un réel acquis, tu vois. Soit parce qu'on a quelque chose dans un processus d'assimilation, comme on en a discuté au début, soit parce que finalement, l'élève ouais, s'en fiche complètement, hein, il va même pas faire l'effort. Et comme tu dis, tu vois, on passe peut-être à côté des, comment dire, de matière, ou en tout cas de centres, on va dire, d'intérêt qui sont peut-être plus primordiaux aujourd'hui. Comparé à ce qu'on nous enseigne. Alors, tu parlais notamment d'informatique, mais il y a pas mal de choses. Enfin, finalement, aujourd'hui, on nous impose des matières. Alors là, je vais avoir une réflexion qui est assez vague, hein, mais on nous impose certaines matières. Mais on pourrait tout autant nous imposer, par exemple, des sciences politiques, des sciences sociales, ce genre de choses qui sont tout autant utiles finalement, et qui sont totalement laissées de côté, et qui auront tout à fait leur place, étant donné qu'on vit dans un monde où quand même on a quand même dans un régime démocratique, etc., etc., en tout cas en France. Et donc je trouve que finalement, tout ça, c'est qu'une question de choix. Tous les programmes de ce qu'on nous impose, c'est qu'une question de choix. Et la question est de savoir si les choix de matière aujourd'hui sont encore ou non légitimes dans le contexte actuel.
Oui. Mais je pense que ça tend à évoluer, tu sais, avec le bac maintenant, ils font plus forcément comme on avait à notre époque, jadis. Mais maintenant, c'est un bac par option. Et je pense, enfin, tu vois, ils prennent pas mal d'exemples sur ce qui se fait, il me semble, au Canada. Enfin, je sais qu'ils font ça au Canada, où en fait, il y a une espèce de tronc commun de connaissances. Et ensuite, c'est toi qui choisis tes options sur des trucs qui t'intéressent, et ça peut être des trucs qui n'ont rien à voir. Enfin, je sais que bah, au Canada, par exemple, ils font des trucs type tu peux avoir quand t'es au lycée, et c'est des matières qui comptent pour l'équivalent du bac, bah tu peux avoir des trucs type théâtre ou des matières artistiques, art plastique, des choses comme ça. Et je pense que, tu vois, genre, parce que c'est vrai que, tu vois, t'as des matières que t'as au collège, type art plastique, musique techno, qui sont là, qui sont considérées comme des trucs de buzard, un peu, genre, ouais, c'est les matières bonus, les matières où tu vas rien branler en cours, parce que ça, c'est pas très très important, entre guillemets, hein. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui s'épanouissaient dans ces matières-là et qui auraient bien aimé pouvoir les continuer au lycée plus en avant, tu vois.
Complètement, oui. Mais après, la question que je me pose aussi, et là je vais peut-être me faire un petit peu l'avocat du diable, c'est de savoir si finalement, est-ce qu'on peut réellement tronquer certaines matières, tu vois? Est-ce qu'on peut réellement se passer de certaines matières? Est-ce qu'on peut aujourd'hui simplement laisser, comme tu évoquais un système où finalement on a un choix qui est quasiment total? Mais en fait, j'ai cette idée-là de me demander qu'est-ce qui aujourd'hui est nécessaire ou non, qu'est-ce qu'on impose ou non, est-ce qu'on impose déjà? Enfin, ça, c'est beaucoup de questions assez vagues, mais savoir si finalement on donne une totale liberté dans l'apprentissage, dans le rapport à la connaissance, à la personne, en estimant que finalement ben, c'est la mieux placée pour savoir ce qu'elle veut faire et apprendre, ou est-ce qu'on continue quand même à imposer certaines matières en se disant que c'est des choses qui sont nécessaires, je pense notamment à l'histoire par exemple.
Oui.
Ou même au français, enfin au cours de langue, hein, parce que ça reste quand même des choses, on va dire, en tout cas à un certain stade basique. Après, voilà, c'est des choix que je trouve, c'est des questions en tout cas que je trouve assez intéressantes, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde va un peu défendre son camp, tu vois. C'est-à-dire que si tu essayes de toucher aux sciences dures, tous les scientifiques vont monter au créneau, et c'est pareil pour les sciences, j'aime pas ce terme, mais molles, entre guillemets. Enfin, de tous les côtés, finalement, on est un peu bloqué dans ce système où on a du mal à laisser de la liberté parce que voilà, quoi.
Je vois exactement ce que tu veux dire, mais après, je me dis que justement, si tu laisses un choix à l'élève, justement, on sort aussi un petit peu de ce côté contrainte. Et je sais pas si justement toi ou moi, enfin des profils un petit peu comme le nôtre, pourraient plus s'épanouir dans un truc que lui choisit, tu vois, genre t'as eu le choix entre plusieurs trucs, il y a une option qui t'intéressait. Tu te serais plus investi dedans, tu vois. Parce que justement, c'est quelque chose que tu as choisi et qui t'était pas imposé.
Après, je trouve que ça soulève aussi une autre question, et bon, là c'est peut-être une question un petit peu plus philosophique, mais j'avais un petit peu évoqué ça en début entre la distinction utilitariste et passionnée, mais c'est de savoir quelle est la finalité de l'apprentissage là, parce que finalement, quand on laisse uniquement le choix à la personne, on a quand même une finalité qui est surtout passionnelle, et ce qui est bien, tu vois, c'est clairement ce qui. Enfin, on peut pas reprocher ça à qui que ce soit. Maintenant, d'un point de vue ultra utilitariste et ultra froid, est-ce que ça avance vraiment, tu vois? Je dirais pas la société, parce que je pense que c'est un peu un grand terme, mais d'un point de vue avenir pro, ce genre de choses, tu vois? Parce que si aujourd'hui on laissait à tout le monde, y compris nous, le choix des matières, je pense que toi comme moi, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui, on serait dans des voies extrêmement différentes. En tout cas personnellement. Et je pense que c'est là aussi un peu tout le dilemme, c'est que d'un point de vue ultra idéal, je pense que oui, bien sûr ce serait normal en fait d'avoir le choix sur ce qu'on veut apprendre. puisque c'est quand même notre vie et c'est quand même, on devrait au moins avoir ce choix-là, j'ai envie de dire. Maintenant, d'un point de vue pragmatique, est-ce que ce serait. Je sais pas si. Enfin, je sais pas. Je sais pas si ça paraît un peu froid de dire ça comme ça, mais est-ce que ce serait vraiment la meilleure chose? Je n'en sais rien. Parce que quand je vois aujourd'hui, même dans les études supérieures, on a finalement très peu de liberté. Toi, t'as évoqué le système canadien, c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus libre. Mais en tout cas, nous en France, on a quand même très peu de liberté sur tout ça. Et c'est vrai que ça pose quand même beaucoup de problèmes. Parce que tu peux être totalement dégoûté au bout d'un moment de te dire, bah merde, qu'est-ce que je fous là? Après des années, je suis encore dans un système où on m'impose des choses qui ne me plaisent pas. Maintenant, voilà, toute la question, je trouve, c'est de savoir qu'est-ce qui peut ou non être imposé. Et puis voilà, peut-être que ça pose une question qui est encore plus philosophique et encore plus large, c'est la finalité de l'apprentissage. C'est de savoir. Et je pense que limite, ça aurait été peut-être quelque chose dont on aurait pu parler à l'introduction, mais c'est de savoir pourquoi apprendre, tout simplement, tu vois. Parce que. Enfin, c'est quoi la finalité que tu peux y trouver? Est-ce que c'est une finalité pour avoir un avenir professionnel? Est-ce que c'est une finalité pour avoir, comme tu parlais tout à l'heure, bah, d'avoir un peu ce côté, on va dire, vraiment passionné dans la recherche, de vraiment se focus à 100% sur quelque chose et à oublier tout le reste? Est-ce que c'est juste pour évoluer personnellement? Est-ce que c'est pour avoir une évolution sociale aussi? Parce que aujourd'hui, quand tu es quelqu'un de cultivé, entre grosses guillemets, et dans un sens très large, t'as forcément pas les mêmes genres de fréquentation. Enfin, il y a tellement de. Peut-être qu'il y a trop de réponses possibles, mais je trouve que c'est une question qui, en tout cas, mérite d'être posée personnellement.
Toi, qu'est-ce que pour toi la finalité de l'apprentissage, c'est quoi?
Question suivante. Non, honnêtement, je trouve que c'est vachement. Enfin, là, je pense qu'on rentre dans un cadre qui est vraiment philosophique, parce que je pense que la finalité de l'apprentissage, honnêtement, je saurais même pas. Je cherche, là, c'est pour ça que je cherche un petit peu mes mots, mais je cherche une réponse claire, mais je pense pas que j'en ai à donner, parce que je pense que la finalité de l'apprentissage me concernant, elle a évolué vachement, comme je disais en introduction, sur un assez grand spectre. Dans le sens où pendant un temps j'ai vraiment cherché le côté un petit peu passionnel dont tu parlais tout à l'heure. J'ai vraiment cherché à trouver dans l'apprentissage quelque chose qui me fasse vibrer entre grosses guillemets, tu vois, mais quelque chose qui, ouais, qui me procure, on va dire, quelque chose. Aujourd'hui, j'avoue que j'ai un rapport beaucoup plus peut-être froid, je sais pas, par rapport à tout ça, dans le sens où. J'ai toujours parfois des moments où, comme tu évoquais tout à l'heure, j'ai ces côtés-là où je vais aussi avoir des phases où je vais avoir l'apprentissage simplement pour mon plaisir et d'un côté très, très investi. Mais ça reste quand même très rare, je dois l'avouer. Et aujourd'hui, l'apprentissage se fait surtout d'un point de vue très pragmatique pour le côté professionnel et aussi, je dois l'avouer, pour le côté social. Parce que c'est un peu ce que j'évoquais avec la pression tout à l'heure, c'est que je trouve que quand tu as un certain, on va dire, degré entre encore une fois, entre guillemets, de culture, tu te dois aussi de ne serait-ce que pour continuer à entretenir tes relations, de continuer à t'intéresser à des choses, en tout cas de continuer à apprendre. Tu peux pas forcément rester à un niveau, on va dire, un niveau identique toute ta vie. Enfin, tu pourrais en soi, si tu arrives à te dire que je m'en fiche, mais dans les faits, tout le monde évolue tout le temps. Et donc moi j'ai cette vision de l'apprentissage où je dirais que c'est plus une nécessité pour mon évolution qu'un réel accomplissement personnel, quoi. Et ce qui est un peu triste avec du recul quand je dis ça, je me dis waouh, c'est vachement triste de dire ça. Mais je pense que je suis arrivé à ce stade aussi parce que voilà, là j'arrive à la fin de mes études supérieures, donc peut-être que ça évoluera par la suite. Et je suis un peu arrivé au stade où je me suis un peu dégoûté aussi de l'apprentissage. Ça, je ne l'ai pas forcément dit tout à l'heure, mais là j'arrive au bout et je pense que j'aurai besoin de quelques années pour aussi digérer en fait. Parce que mine de rien, c'est quand même des années, ça fait des années où on t'impose d'apprendre, on t'impose d'être dans un cadre très spécifique, on t'impose d'avoir finalement tel niveau de connaissance, etc., etc. Et donc forcément, je pense que ça, enfin en tout cas personnellement, ça a eu un impact sur mon envie d'apprendre. Et je pense pas que ce soit définitif parce que comme voilà, j'ai encore des moments où j'ai un petit peu cette énergie, cette fougue, mais je pense en tout cas qu'il va me falloir un petit peu de temps pour que ça évolue et pour retrouver le côté un petit peu plus sain de se dire ben j'apprends parce que je kiffe ça, tu vois. Et voilà.
D'accord. J'avais une autre question qui m'est venue, c'est est-ce que tu as des souvenirs de trucs qui t'ont dégoûté dans l'apprentissage?
Alors j'ai... Ouais, alors... Ça va un petit peu retoucher ce qu'on a dit tout à l'heure. Je pense que ce qui m'a le plus dégoûté de l'apprentissage, c'est même pas tant la matière ou même la difficulté, tu vois, parce que bon, des fois, tu peux rien comprendre et tu peux dire, waouh, je suis nul, mais c'est pas forcément ça, c'est vraiment la personne qu'il y avait en face. On évoquait tout à l'heure les profs ultra charismatiques et doués, mais à contrario... A contrario, j'ai quand même eu quelques expériences de profs qui m'ont totalement dégoûté. Alors pour illustrer, je vais peut-être en donner un exemple sans donner de prénom. Ce serait bête. Non, non. Non, j'ai souvenir par exemple d'un enseignant. Donc c'était dans le supérieur aussi. Bah, je donne cet exemple parce qu'il est... Il date de quelques années, donc il reste assez récent, donc j'ai encore un bon souvenir, mais il y a des exemples plus anciens, bien sûr. En fait, c'est une personne qui était, je pense, antipathique sur absolument tous les points inimaginables. Tu vois, c'est quelqu'un qui était détestable, et je dis ça avec toute la bienveillance possible, mais qui était vraiment détestable sur tous les points, tu vois. Et c'est quelqu'un, en fait, qui... si tu veux, le deuxième cours qu'on a eu ensemble, ou troisième cours, je sais plus, j'étais avec un ami à côté, et je me souviendrai toujours, en fait, il appelait les gens... Et garçon, tu vois. Enfin, ça peut paraître anodin, mais vraiment, il les méprisait dans le sens où il les appelait comme ça, il faisait, hey, garçon. Et il les interpellait, et il les faisait, si tu veux. Il y avait une dynamique d'humiliation, en fait, dans le sens où, quand tu interpelles quelqu'un comme ça, ensuite, il te clashait. Bon, j'ai pas les phrases exactes, mais vraiment, il te mettait plus back terre devant toute une promo qui est silencieuse et qui te regarde. Et faut t'imaginer, donc, la scène où toi, t'es là, bon, t'es tranquille et tout, bon, t'es en train de regarder ton téléphone vite fait, et là t'as tout d'un coup le prof qui arrête son cours, qui te regarde, qui t'appelle hé garçon, ou qui te méprise d'une manière ou d'une autre, et tout le monde se retourne vers toi, et la personne bah, te détruit concrètement. Il était assez doué pour ça, pour détruire. Et c'est quelqu'un qui a réussi du coup à me complètement me dégoûter par son caractère antipathique de la matière qu'il enseignait, en fait. Et ça n'avait même pas un rapport avec... Je pourrais même pas te dire si la matière était intéressante, tellement... Son côté négatif m'a dégoûté, en fait, du truc, tu vois. Et encore aujourd'hui, si on me parle de cette matière-là, j'ai un fort a priori négatif. Alors que pourtant, je veux dire, la matière en elle-même, elle m'a rien fait, tu vois. Je veux dire, alors ça peut paraître très dit comme ça, l'exemple, parce que forcément, je vais pas non plus rentrer trop dans les détails, parce que le but, c'est pas de porter des jugements sur des gens, mais l'idée, c'est que je trouve que. On peut parfois sous-estimer l'impact des négatifs que peuvent avoir, ouais, les enseignants sur tout ça, tu vois. Donc je sais pas si... Bah, toi, tout à l'heure, tu disais que tu avais aussi vécu certains cas, et notamment tu parlais de ta prof de droit, mais c'est un peu la même chose, tu vois,
J'ai deux souvenirs par rapport à ça. Un truc qui justement te donne, en tant qu'élève, surtout quand t'es pas trop bien dans ta peau, pour avoir tendance à te bloquer complètement et puis à complètement t'anéantir en fait, d'une certaine manière. C'était un prof de lycée, de terminale, et en fait c'était une matière où je maîtrisais rien du tout en physique. Et j'étais complètement à la ramasse, mais parce que, pas parce que. En fait, parce que j'avais complètement lâché, et puis qu'il aidait pas les gens parce qu'il considérait directement que ceux qui avaient des mauvaises notes, c'est qu'ils travaillaient pas, tu vois, basiquement. Parce que, bon, c'est évident, la physique, les calculs de masse molaire et tout, si tu y arrives pas, c'est pas. Hein, c'est que tu cherches pas à comprendre, en fait. Et cette personne-là était assez exécrable. Et j'ai complètement lâché, tu vois. C'est au niveau des notes et tout, t'as mon bulletin, il commence au premier trimestre, c'était genre à 8, deuxième trimestre à 5, troisième trimestre à 2, tu vois. Genre, ouais, bon, c'est assez. Voilà, j'avais plus envie de travailler du tout. Et en fait, je me souviens très bien de la fin de l'année, juste avant le départ, où il dit, ah bon, bah bonne chance dans vos études supérieures et tout. Et là, il a regardé quelques personnes dans la classe, notamment moi, et il a fait, mais bon, je sais qu'il y en a, ils iront pas loin. Et en fait, ça m'a marqué, tu vois. Et j'étais là, et en fait, récemment, j'ai repensé à ça, et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que ça lui apportait de dire ça? Parce qu'en plus, si tu veux, j'étais pas un gamin qui posait problème, je parlais pas en cours, je foutais pas le bordel, il y avait rien du tout, tu vois. J'avais juste des mauvaises notes, tu vois. J'étais pas un fouteur de merde. Donc qu'est-ce qui justifiait le fait qu'on dise ça à des gamins qui ont à peine 18 ans, qui essaient de se lancer dans la vie d'adulte? Qu'est-ce qui fait que... En fait, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant que prof, de dire un truc odieux comme ça? Parce qu'en fait, tu détruis juste des gens. Et ça, c'est chaud, quoi. Enfin bref, j'avais ce souvenir-là qui m'avait marqué. Et un autre souvenir, et comme tu disais, oui, rationnellement, t'arrivais pas à expliquer le fait que t'arrivais plus à piffrer la matière en question à cause du prof, mais que la matière, elle avait rien. Moi, c'est un autre truc. C'est la lecture. J'ai complètement arrêté de lire suite à un projet de collège. Imagine... La prof de français et la prof de maths qui réussissent à faire un truc commun. Genre le rêve de tout enseignant, tu vois, de pouvoir travailler main dans la main avec un collègue. Cool, sauf que quand c'est français et maths, tu dis comment ça va tourner cette histoire, tu vois, genre comment tu vas réussir à faire un projet sur toute l'année? Et ce projet sur toute l'année, c'était un bouquin qui s'appelle Le théorème du perroquet. C'est un bouquin déjà qui fait à peu près 600 pages. Et en fait, c'est un roman, donc pour le côté français, mais qui parle de maths. Et donc, en fait, t'as des pages où t'as des équations qui font la taille de mon bras, avec des trucs. Et en fait, en gros, t'avais à faire pour la semaine, t'avais à lire un chapitre et à faire tous les calculs qui apparaissaient dans le bouquin. Tu vois, pour le français, tu devais lire le chapitre du bouquin, et en cours de maths, tu devais faire tous les calculs. Et ça m'a dégoûté de la lecture. J'ai plus jamais relu de plaisir ou de moi-même de roman à peu près depuis cette date. À partir de ce moment-là, j'ai complètement lâché. Et je comprends que c'était un truc super emballant pour les profs. Parce que c'est vrai que ben c'est pas tous les jours que tu peux travailler entre collègues, surtout sur un projet comme ça, tu vois. Entre prof de français, prof de maths, c'est quand même pas commun. Mais là, putain, mais c'était l'antichambre de l'enfer, quoi, de l'apprentissage. Oh, quel enfer!
C'est original en tout cas.
Ouais, non, mais c'est. Je te jure, en fait, je l'ai retrouvé à la médiathèque là récemment. Le bouquin, je l'ai vu dans les rayons et je suis allé voir mes collègues et j'ai fait, c'est à cause de ce bouquin-là que je lis pas. Ils m'ont fait, ah ouais? Et ils m'ont dit, pourquoi? J'ai pris le bouquin, je l'ai ouvert à une page random, il y avait une équation qui faisait la moitié de la page et j'ai dit, pour ça. Ils m'ont dit, t'étais en quelle classe? Je fais, en troisième. Je fais, bon, je comprends.
Bah, le truc, c'est que tout ça part toujours de bonnes intentions, mais je pense qu'il sous-estime un petit peu l'impact traumatisant que ça peut
Oui,
avoir.
là, tu vois, autant ça c'est pas trop justifié, c'est juste que ça venait de moi le fait que ben en fait ça m'a dégoûté. C'était plus du dégoût par rapport à une lecture, mais j'ai eu enfin pour l'autre expérience que dont je te parlais. Là, c'était juste parce que c'était un con. C'était
Oui,
malveillant,
clairement. Mais clairement, en tout cas, ça soulève aussi la question de savoir si. Enfin, là, on sort encore une fois du sujet, mais après tout, on est le podcast pour ça. C'est savoir si tout le monde peut enseigner ou pas, tu vois. Parce que c'est même pas une question de connaissance, mais c'est une question je pense aussi, comme tout à l'heure, t'évoquais l'intelligence émotionnelle, savoir si. Parce que des personnes comme ça qui finalement. Arrive à être aussi cruel envers des gosses, tu vois. Enfin, c'est. Pourtant, il y en a plein. Je pense que tout le monde peut au moins en citer une, tu vois, qui a vraiment été assez dure. Et ouais, bon, je pense que c'est en tout cas quelque chose d'assez Ben, je sais pas, je pense que c'est une question qui mérite d'être posée aussi, mais bon, là, ça reste une question beaucoup plus philosophique, encore une fois, parce que bon, dans les faits, bien sûr que tu peux pas exiger aux gens d'être dans des normes émotionnelles,
Oui.
sinon, je pense que.
Mais un peu d'empathie, quoi.
Ouais, mais voilà, le minimum.
Parce que bon. Voilà, ça me rappelle aussi un prof de maths. C'est souvent, enfin, moi j'ai souvent eu des expériences avec des profs de maths. C'est prof de maths, prof de physique, prof de sciences en général, c'est des gens qui ont une espèce d'esprit rationnel ultra. Alors je généralise hein, par rapport à mes expériences, hein, mais en général, moi c'était surtout des gens que. Enfin, les gens que j'ai rencontrés, c'était surtout. Bah ouais, des gens qui ont un espèce d'esprit rationnel qui leur fait dire des trucs qui ont un peu cet esprit genre mais c'est simple si tu y arrives pas c'est que tu te donnes pas les moyens mais qui peuvent pas comprendre que ben toi tu peux peut-être pas forcément avoir la fibre qui fait que, enfin, tu vois, moi, il y a des concepts mathématiques, t'as beau me les expliquer, je les comprends pas, même si c'est des concepts qui sont simples pour la plupart des gens. J'ai vraiment un problème avec ça, tu vois. Et en fait, j'ai un prof, ouais, il était comme ça, quoi. Il était là, je me suis tapé des 5 toute l'année en maths. Un jour, j'ai réussi à avoir 10 et demi. Sur ma copie, il a marqué passable, tu vois. Même pas genre. Bravo, tu vois, genre, félicitations, t'as réussi à avoir la moyenne une fois dans l'année. Non, c'était genre passable, tu vois, genre pas un mot d'encouragement ou quoi que ce soit. C'est genre, non, mais en fait, voilà, si tu n'as pas de bonnes notes en maths, c'est parce que tu ne révises pas ou que tu te donnes pas les moyens de réussir. Et ça, j'ai souvent eu des profs de sciences qui avaient cet esprit. Un peu débile de bah voilà de en fait c'est simple les sciences c'est du calcul t'arrives pas à comprendre ça c'est que tu cherches pas à comprendre en fait c'est que t'as pas envie de comprendre.
Je comprends, mais du coup, c'est d'autant plus. Enfin, parce que moi, bon, je vais me faire encore une fois un peu l'avocat du diable, mais pour le coup, j'ai quand même des contre-exemples. Mais je trouve ça intéressant ce que tu soulèves, parce que je pense que, du coup, toi là, du coup, ça se voit que les sciences, pour le coup, ils t'ont vraiment dégoûté, en tout cas les enseignants que tu as pu avoir. Maintenant, moi, je t'avoue que je sais que l'une des premières expériences en termes d'enseignant qui m'a traumatisé, c'était une prof de français, tu vois. Mais c'était un petit peu elle était vraiment dans une dynamique aussi d'humiliation. Moi, souvent, ce qui me pose énormément de problème, c'est ça, c'est quand on cherche vraiment à humilier la personne en face. Alors moi, j'ai toujours été le mec un peu discret et tout, donc j'ai en général pas été embêté, mais ça n'empêche que, là, pour donner l'exemple concret, c'était quelqu'un qui avait une boîte à meux, donc tu vois le truc que tu retournes qui fait un gros meux. Et c'était une personne, en fait, qui prenait tout le temps à partie 2-3 personnes de la classe qui étaient forcément pas les plus bosseuses, on va dire, et qui passait son temps à leur parler, et quand il répondait, elle prenait sa boîte à meux, tu vois. Donc c'était vraiment, je te pose une question, tu réponds, tu dis de la merde, je te fais ma boîte à meux. Et t'as quand même une grosse pression psychologique, parce qu'il faut t'imaginer que du coup tout le monde rigole, tout le monde se fout de ta gueule, et ça continuellement, chaque cours. En plus, c'était le genre de prof qui du coup passait son temps à interroger ses élèves pour continuer à les humilier. Enfin, c'était une dynamique très très malsaine, et c'est arrivé au stade où il y a des élèves qui sont partis en pleurant, tu vois, pour
Oui,
illustrer le truc.
du harcèlement, quoi.
Et ouais, voilà, oui, ouais, dis-le. Mais voilà, bon, c'est pas pour dire oui, les sciences c'est bien, c'est pas ça du tout ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'a dégoûté pendant longtemps. Tu parlais tout à l'heure de lecture, moi, ça m'a dégoûté pendant longtemps de lire, on va dire, des classiques, du français de manière générale. Tu vois, bon, c'est très abstrait comme matière, mais pour dire que. Je pense que c'est aussi une question d'opportunité. Enfin, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais je trouve que c'est une question d'opportunité, ou en tout cas, c'est une question de chance, dans le sens où si tu arrives à avoir un bon enseignant dans la matière, ça peut changer tellement de choses, tu vois. Parce que toi, dans les sciences, finalement, t'as eu tout ce qui était possible d'avoir qui était pas ouf, tu vois. Et je sens qu'il y a un traumatisme sur la masse molaire et les maths.
Un lourd traumatisme.
Mais voilà, mais c'est dommage, parce qu'en vrai, Je vais pas non plus me faire ultra défenseur des sciences parce que j'ai quand même été dégoûté de pas mal de choses aussi comme toi. Et je pense qu'il y a quand même aussi, comme tu disais, ça je suis d'accord, beaucoup de profs des sciences qui sont très ancrés dans leur vision très très pragmatique, en mode bah tu. Voilà, comme tu as dit, il faut bosser et tout. Mais bon, après, dans les faits, moi j'écoute. Enfin, je vais te dire un truc tout bête pour illustrer ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que moi, le prof qui m'a donné envie de faire. Les sciences de la vie, on va dire, c'est un prof d'SVT que j'ai au lycée. Je l'ai eu un an, et ce mec-là, je suis passé de 9 de moyenne à 17, tu vois. Et parce que j'ai jamais autant pris mon pied avec un prof qu'avec lui. Et j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir. Je pense qu'aujourd'hui, si je le croise, je lui dirai un grand merci. Parce qu'il a, entre guillemets, bah, je dirais pas forgé ma vie après, tu vois, mais en tout cas, il a bien aiguillé. Et que si à la place, j'étais tombé sur quelqu'un qui m'avait détruit et tout. J'aurais pas du tout fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Peut-être en bien, peut-être en mal, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça a un impact qui est considérable, c'est sûr.
Ouais. Non, c'est vrai que nos vies auraient pu être différentes, parce que moi, justement, j'ai plutôt des bons souvenirs de prof de français, en général. Mais voilà. Mais ça me rappelle, ce que tu viens de me raconter, ça me rappelle un truc, et il faut que je te raconte ça, parce que c'est une anecdote rigolote. Je suis retourné aux portes ouvertes de mon lycée, il y a un an ou deux. Et du coup, en fait, j'ai croisé un prof d'anglais. Que ce prof d'anglais, c'est le prof d'anglais que j'avais en terminale, c'était un mec formidable. Genre, j'avais eu que des profs d'anglais un peu moisis, et en fait, j'étais super emballé. Enfin, j'étais pas super emballé par la matière, et lui est arrivé en terminale, et c'était un mec super bienveillant. Et en fait, il se faisait pas emmerder, alors que c'était pas particulièrement quelqu'un qui avait de l'autorité ou quoi que ce soit, qui aurait pu facilement se faire marcher sur les pieds, tu vois, je pense. Et ce mec était mais d'une bienveillance incroyable. Il nous apprenait des trucs qui étaient vraiment super intéressants. Si tu veux, quand il y avait quelqu'un qui avait une note un peu nulle dans son cours, il allait rendre la copie à la personne et puis il discutait avec elle pendant 2 minutes en disant genre bon bah là ta note elle est pas ouf, mais parce que là c'est un peu coincé. Par contre, regarde sur ces points-là et ces points-là. Ça s'est vachement bien passé, donc là tu vois que t'as un point fort ici, là, genre sur telle grammaire, tel temps de verbe ou j'en sais rien. Là tu te débrouilles bien après, c'est juste. Faudrait que tu continues un petit peu à travailler avec ça. Et ça, ce mec, il était. Enfin voilà. Je suis passé de 8 de moyenne en anglais à pareil 15 de moyenne, et par la suite, ensuite, je n'ai plus jamais révisé. De ma vie d'anglais, et j'ai toujours eu des notes ultra correctes parce que en fait ensuite j'apprenais, tu vois, je me nourrissais un peu de ce que je lisais en anglais et tout, des choses comme ça, et du coup bah t'engranges du vocabulaire, tu regardes des séries, t'entends parler anglais, donc voilà. Même sans forcément le parler, j'arrivais à me débrouiller. Et ce mec-là, je l'ai recroisé, je le vois et je fais oh, c'est lui, et du coup je vais le voir et je fais ah bonjour monsieur, vous vous souvenez sûrement pas de moi. Je vous ai eu il y a plusieurs années déjà, en terminale, ça devait être en 2010-2011. Je lui dis, bah écoutez, en fait, franchement, depuis que je vous ai eu en cours, j'ai plus à apprendre un seul cours en anglais parce que je me débrouillais super bien, parce que vous m'avez donné le goût de la matière et tout. Et en fait, là, je vois qu'il discute avec deux personnes, dont une des deux personnes me répond et me fait « Ah, mais oui, je me souviens de vous et tout. Ah, bah, ça me fait plaisir ce que vous nous dites. » Et c'était mes profs de... En fait, il était en train de discuter avec ma prof de première et ma prof de seconde, qui, elles, n'étaient pas du tout des bonnes profs. Et qui ont pris ça pour elles aussi. Et j'étais là, genre, oh merde. Et puis j'essayais de regarder fixement dans les yeux le prof de terminale en essayant de lui faire comprendre que c'était à lui que je parlais.
Le moment de solitude, en effet, ouais.
Ouais, c'est
Tu sais que
ça.
t'as peut-être condamné plein d'élèves là qui étaient peut-être en train de se remettre en question et toi, ils sont fait, oh finalement.
Ouais, c'est ça. Avec tu sais, la prof de première que t'aimais pas du tout qui dit ah oh, bah c'est sympa ça, parce qu'on nous le dit pas souvent. Bah oui, tu.
Tu m'étonnes.
Et en fait, c'était une prof, genre, c'était un peu du management par la terreur, entre guillemets. C'était genre tous les débuts de cours, un contrôle surprise avec des gens qui étaient tirés au hasard pour faire le contrôle surprise, tous en premier rang, avec le cartable de la prof entre les deux personnes pour pas que ça copie. Et puis, si t'avais de la chance, bah, elle avait plus son cartable ou je sais plus quoi, donc elle mettait la poubelle entre toi et la personne d'à côté.
Mais quelle horreur! Mais t'imagines, si ça se trouve, elle avait arrêté tout ça et à cause de toi, elle a repris en mode ah bah finalement ça a bien marché.
Mais oui, mais je lui parlais pas à elle. Et j'étais trop, 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 trop déçu. Et enfin, j'étais content d'avoir revu ce mec. Vraiment. Et en fait, ensuite, justement, j'ai recroisé le fameux prof de physique qui m'avait dit que j'irais pas loin. Et j'ai voulu aller le voir, et je me suis dit, ça vaut pas la peine.
Non, clairement non.
Parce
Bon, de
qu'en
toute
plus.
manière, c'est tu vas pas les changer ces gens-là, donc.
Parce qu'en plus, j'étais allé voir du coup enfin, il était en train de discuter avec mon prof de première de physique qui, lui, pour le coup, était très bien. Je panais rien en cours, mais j'avais des notes de merde, mais c'était quelqu'un d'humain qui se souciait de ses élèves et tout. Qui était pas vache, quoi. Dès qu'il y avait quelqu'un qui allait pas bien, il gardait à la fin du cours en lui demandant, genre, oui, j'espère que tu vas bien, tout ça. Enfin, voilà, quoi. Enfin, un mec cool. Voilà. Mais je me suis dit, oui, ça vaut pas la peine d'aller te mettre au niveau de la personne que tu n'aimes pas, parce que ça ferait pas avancer les choses, quoi.
Bah, je trouve que bon, mais en tout cas, c'est peut-être une belle conclusion à toute cette discussion, c'est faites preuve d'empathie. Soyez gentil et vous donnerez le goût d'apprendre.
C'est
Et
ça.
je pense que c'est le principal parce que mine de rien, dans tous les sujets qu'on a pu aborder au cours de ce podcast, je pense que ce qui est quand même le plus souvent revenu, c'est que le goût d'apprendre, ça passe aussi par la bienveillance. Et en tout cas, c'est même pas, comme tu disais, une question de charisme. Parce
Oui.
que je pense que ça, c'est. Le charisme, c'est déjà très vague et en plus, c'est quand même. C'est quelque chose de très spécifique. Mais je pense que déjà d'être bienveillant, ça fait énormément, sincèrement.
Mais je voulais rebondir là-dessus parce que justement, j'avais un prof en fac, un prof d'histoire de la politique, qui était quelqu'un qui avait énormément de charisme, mais qui n'était pas bienveillant. C'était quelqu'un qui s'aimait beaucoup, mais qui était assez fascinant, parce que son cours, c'était un one-man show en fait. Et c'était un cours en amphi, forcément, et tout. Et c'était, ouais, un truc super assez fascinant. J'ai retenu plein de choses de son cours. C'était vraiment très intéressant. Mais je me souviens pas du mec comme quelqu'un de bien, tu vois. Et c'est un peu bizarre. Mais après, tu vois, c'est pas des profs. Étant donné que c'est des profs d'amphi, c'est pas des gens que t'as eu à côtoyer, tu vois, genre vraiment de près, entre guillemets, tu vois. Parce que c'est pas des gens que t'as eu en cours, tu vois, genre en classe. C'était vraiment des gens. Il faisait que de l'amphi, donc voilà, c'est un maître de conférence en fait. Et
Complètement, ouais.
il est là, et en fait, il gère son truc super bien. Mais bon, c'était quelqu'un qui était assez imbu de lui-même. Hein. Faut pas se le cacher.
Bah, dis-toi que j'ai pas mal d'exemples comme celui que tu viens de citer. J'ai notamment une prof en première année qui était un petit peu comme ça, qui était ultra charismatique, mais pas bienveillante pour un sou, et même au contraire, qui avait tendance à être assez cruelle, on va dire, mais qui était extrêmement intéressante et passionnante, même, je dirais. Mais après, je trouve que le charisme, c'est quelque chose. Je sais pas si c'est inné, mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas acquis à tout le monde. Alors que être bienveillant, je pense que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Alors ça fait très bisounours dit comme ça, mais dans les faits, je pense que à défaut d'intéresser tout le monde, tu peux au moins ne pas dégoûter les gens, tu vois. Parce que toi, t'évoquais la lecture tout à l'heure,
Oui.
et c'est vrai que finalement, enfin, on s'en fiche un peu, tu vois. Peut-être que t'aurais jamais aimé les maths ou t'aurais jamais aimé ce bouquin ou n'importe quel bouquin qu'on t'aurait imposé en français. Mais en tout cas, on t'aurait peut-être pas dégoûté de lire, tu vois. Et c'est ça que je
Oui.
trouve important, surtout.
Oui. Mais tu vois, enfin, après, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que tu vois, la bienveillance, je suis pas sûr que ça s'acquiert. Tu peux avoir l'air bienveillant, mais les gens vraiment bienveillants, tu le vois, les gens qui essaient faussement d'être bienveillants, tu le vois aussi. Tu vois, c'est pas tout à fait de la même du même acabit. Et là, tu vois, genre, comme on dit, hein, l'expression, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. La prof de maths et la prof de français en troisième qui avaient fait ce projet sur ce bouquin, elles ont pas fait ça de manière malveillante. Et c'était des profs qui étaient bien de souvenirs. C'était pas des gens qui ont fait ça juste pour faire souffrir les élèves. Clairement pas. Mais c'est un peu. Je sais pas. C'est. Pour le coup, la bienveillance peut aussi amener à. Tu vois, genre, parce que peut-être que dans leur tête, tu vois, c'était bienveillant parce que c'était en mode, genre, bah, comme ça, vous aurez des choses en commun à faire en français et en maths. Vous aurez à vous focaliser sur un bouquin pour le français et les maths. Ça vous fait. C'est pas comme si vous aviez deux trucs à faire complètement distants. Vous pouvez conjointement vous concentrer sur le français et les maths pendant votre lecture. Vous faites un truc et en fait vous faites deux matières pendant que vous faites un seul truc. Je pense que ça partait d'une idée bienveillante. C'est juste que ben en fait c'est le bouquin qui m'a. C'est plus que les profs, là pour le coup, c'est la forme de ce qu'ils ont fait qui m'a dégoûté, tu vois.
Ouais, non, après, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense pas qu'on puisse non plus faire semblant, c'est clairement pas la solution. Maintenant, c'est vrai que j'ai ce côté d'être un peu naïf et candide de croire que, au moins, ne serait-ce que, comme tout à l'heure, tu parlais, tu vois, d'un prof qui prenait le temps d'être à l'écoute, ce genre de choses que moi j'assimile à de la bienveillance de manière très large, hein, mais que je trouve nécessaire, importante pour arriver à un apprentissage qui soit plus sain, tu vois. Par exemple, dans ton cas du bouquin, c'est vrai que les profs peuvent être très bienveillantes et imposer quelque chose qui va finalement te dégoûter. Maintenant, t'es peut-être juste tombé au mauvais moment, mais si les profs restent à l'écoute, tu vois, c'est quelque chose qui ne va pas se reproduire dans le temps. Bon, là, c'est un exemple vachement précis, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que le plus important, tu peux pas demander aux gens d'être tous des bons orateurs, ou d'être ultra charismatique, comme on disait. Maintenant, je pense que quelque chose qu'on peut au moins demander, c'est d'être à minima à l'écoute. Après, c'est facile de dire ça, c'est vrai que c'est tellement propre au caractère que c'est un peu naïf de dire ça, mais je trouve que ça serait déjà une bonne avancée sur beaucoup de points, tu vois. Mais bon, ça c'était un petit peu le côté naïf de la conclusion. En tout cas. Moi personnellement, c'est vrai que qu'aujourd'hui, je trouve que pour conclure un petit peu tout ce qu'on a pu dire avant, c'est vrai que je trouve que c'est une vraie question de se demander en fait qu'est-ce qui pourrait ou non, bah déjà comme on parlait au début, améliorer le rapport à l'apprentissage, mais surtout comment faire pour ne plus dégoûter, comme on l'a pu l'évoquer tous les deux sur différents sujets, mais je pense que ça, c'est vraiment une préoccupation majeure parce que, toi, tu l'évoquais avec la lecture, mais je pense qu'il y a des conséquences qui sont parfois insoupçonnées, de choses qui peuvent être assez banales, tu vois. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à creuser. Donc voilà, soyez gentils quand même, c'est tout. Et
C'est
puis
ça.
voilà, et je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais sinon, je pense qu'on peut conclure ici.
Ouais. Moi, je pense que c'est bon, on peut conclure. C'est vrai qu'on a pas mal fait le tour du sujet. Après, c'est vrai qu'on peut aussi, on pourra aussi éventuellement dans un futur épisode, aborder le sujet de la bienveillance. Je pense que ça peut être quelque
Waouh.
chose qui est intéressant.
Mais est-ce qu'en fait on serait pas juste trop fort et qu'en fait on fait des liaisons sans le voir
Non, mais
avec le
c'est
prochain
ça. Mais en fait,
épisode?
si tu veux, c'est que moi, j'étais bon en français parce que j'aimais bien le français, parce que j'ai eu des bons profs de français qui étaient bienveillants. Et du coup, je réussissais à faire des ouvertures dans mes conclusions de dissertation, des ouvertures sur un autre sujet. Donc, voilà.
Beaucoup
Mais.
trop fort.
Et ouais, c'était bien plaisant de pouvoir discuter de ça. Et puis, je pense qu'on aura plein de choses à se dire la prochaine fois aussi.
Complètement. Je trouve qu'on a quand même bien dévié, on a bien fait marche arrière, donc je pense qu'on n'a pas été
Exactement.
on n'a pas été trop mauvais sur ce coup-là.
Le concept de l'émission est respecté. Est-ce que tu veux qu'on fasse comme dans tous les podcasts du monde et qu'on fasse une recommandation à la fin?
C'est-à-dire une recommandation.
Bah, je sais pas, un truc que t'as regardé, un truc que qui t'a donné envie d'être partagé?
Bah si t'as une recommandation, vas-y. Je vais réfléchir pendant que tu l'as dit comme ça.
Alors moi j'ai une recommandation que je qualifierais de recommandation nanar parce que j'ai regardé une série qui est sur Netflix qui s'appelle Titans et c'est nul, mais alors c'est bien nul. J'ai regardé la première saison, ça volait pas très très haut. Alors c'est une série sur, sur les Titans de DC Comics, donc l'équipe de super-héros de Robin, donc un peu la Justice League Leader Prize, quoi, en gros. De base, c'est ça le concept, hein, quand même, il faut pas l'oublier. Mais alors là, alors la première saison, je l'avais regardée, et là, j'ai fait la deuxième saison, donc un peu en retard, hein, parce que, bon, je regarde des trucs un peu à la bourre, mais... Oh, la deuxième saison, j'avais envie de me prendre la tête dans les mains, mais tout le temps. Genre, c'était horrible. Horrible. Les personnages sont débiles, mais à un point. Ils font toujours des trucs complètement incohérents. Il y a des trucs qui sont oubliés tout le temps. C'est absurde au possible. Les personnages, en fait, ils se mettent en colère juste pour faire avancer l'intrigue et du coup, se foutre en colère pour se foutre en colère. Ils se barrent les uns dans toutes les directions, enfin, les uns dans une direction, les autres dans l'autre. Enfin, ça va dans tous les sens. Et même, enfin, je veux dire, le méchant final, il est expédié dans les 10 premières minutes du dernier épisode, juste parce qu'il y a tellement d'intrigues à clôturer qu'ils arrivent pas à faire autrement, quoi. C'est nul, mais alors nul. Genre, si tu veux, j'étais là, je fais, mais il est mort là? Puis les gens, ils font, c'est bon, il est mort. Et t'es, bon, ok. Absurde au possible, c'est complètement con. Bref, si t'as l'occasion de le voir, je sais pas si tu as vu.
J'ai vu la saison 1 et alors j'osais pas trop te le dire, mais moi j'avais bien aimé la saison 1 quand même. Alors, super. Non, j'ai bien aimé sans être non plus un immense fan. J'ai bien aimé parce que il y avait le côté un petit peu fantasme de voir certains personnages à l'écran qu'on n'avait pas forcément vu avant. Il y avait le côté fantasme. Moi je suis un énorme fan de l'univers DC et donc forcément. Voilà, après j'avoue que de base même la saison 1 elle avait un petit côté nanar, c'est vrai, sur certains côtés
Mais
que
alors,
je m'efforçais de ne pas voir, mais j'ai pas vu la saison 2 encore donc.
non mais alors, attends, j'avoue que la saison 1, en fait, elle était plutôt, elle se tenait bien. Mais il y avait des trucs nanars qui m'énervaient particulièrement. Genre le personnage de la fille là, qui autour de duquel tourne toute l'intrigue de la saison 1. La fille et ses pouvoirs, je trouvais insupportable au possible et super cliché et enfin vraiment gamine tête à claque, tu vois. Tout le temps. Mais là, la saison 2, vraiment, je te recommande de la voir parce que là, tu pourras pas me dire que t'as aimé. Littéralement, tu pourras pas me dire que t'as aimé. Il y a des trucs, j'ai pas envie de te les spoiler, mais en même temps, j'ai envie de te les spoiler parce que c'est complètement con, quoi, mais je le ferai pas. Mais par contre, j'ai hâte que tu puisses l'avoir pour qu'on puisse en discuter parce que ça. Voilà, c'est.
Mais est-ce que ça pourrait pas être aussi un prochain épisode de toutes les adaptations bien nulles qui ont ruiné
Ouais,
notre vision de l'univers?
je
En
suis pas
l'occurrence.
sûr. Ah, si, on peut se faire un épisode. Enfin, moi, j'ai de quoi parler de pas mal de choses, notamment sur l'univers Star Wars, notamment les films des Ewoks.
Ah oui, les fameux. Mais non, dis donc, il faut pas trop en dire, ce sera une prochaine fois. Mais du coup, moi juste, alors, j'ai une recommandation qui est pas du tout nanardesque, mais que je vais donner parce qu'elle est en lien un petit peu avec ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Et en plus, je vais prêcher pour ma paroisse parce que je suis quelqu'un comme ça, sans aucun remords. C'est en fait un vulgarisateur qui est pas très très connu, qui parle de biologie marine, qui s'appelle Melvac sur YouTube. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait des vidéos qui sont vraiment très très cool, qui évoquent des sujets qui sont un petit peu. C'est de la vulgarisation, mais un petit peu. Comment dire? Qui va parler de trucs vraiment très très cool. Là, il va préparer une série de vidéos sur les calamars géants, par exemple. Les calamars géants, pardon. Il a parlé de pas mal de choses sur la pollution plastique aussi. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de vidéos qui sont très très intéressantes, des vidéos qui parlent d'actualité, des vidéos qui parlent de choses insolites. Et je trouve
D'accord.
ça cool d'avoir des vulgarisateurs du monde marin un petit peu, mais ça, c'est voilà, comme j'ai dit, je prêche ma paroisse, donc
sans
aucun scrupule, voilà.
Tu fais bien. Et du coup, ça s'appelle comment?
Melvac, il s'appelle, avec M-E-L-V-A-K.
D'accord. Bah, j'irai regarder.
Voilà, comme ça, moi, je vais regarder une série nulle et toi, tu vas regarder des vidéos cool, super.
Voilà, mais t'as jamais rechigné à regarder des trucs nuls, à vous.
C'est vrai. Non, mais bon. Bon, en tout cas, merci. Et puis, j'espère que ces petites recommandations seront utiles d'une manière ou d'une autre.
Et ben, on va conclure ici. Donc, on vous souhaite une bonne écoute, une bonne fin d'écoute, et puis une bonne journée. Salut.
Salut.